France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Geoffroy Jourdain, je suis né en novembre 72 à Épinal et je suis musicien.
Jourdain, quand on parle des Cris de Paris, évidemment, on pense à quelques affinités électives. Benjamin Lazare, donc, qui en fait partie. Vous avez fait beaucoup de choses ensemble, inventé, j'allais dire, des formes, que ce soit à partir de chansons, à partir de littérature. Comment est-ce que vous pourriez définir un peu ce qui vous lie et ce qui fait qu'il y a à la fois La 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 Opéra en chanson, Heptaméron, Cachafa, soit des choses très 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 différentes?
Chaque projet a effectivement ses spécificités, parce que c'est vrai qu'entre Cachafas et par exemple Actéon, qu'on va faire bientôt, il n'y a peut-être pas grand-chose à voir. Et en même temps, si, il y a, pour dire vite, une complicité qui fait qu'on se voit en dehors des répétitions. Donc de ce fait, très tôt, on a compris l'intérêt commun qu'on avait par rapport à certains phénomènes, disons, de... Je parlais de ça plutôt quand j'évoquais le madrigal, mais le fait de dire « je » à plusieurs, c'est quelque chose qui nous a toujours passionnés. Et ça nous a beaucoup associés aussi pour, disons, le XVIIe siècle et le rapport à la vanité dans l'art. Et puis, j'ajouterais aussi, là, c'est peut-être même encore plus des discussions de fin de soirée, mais de... un intérêt commun pour Pérec, par exemple. J'ai l'impression que notre amitié s'est bâtie aussi en même temps sur le fait de, tout en créant les passerelles, nous associer à des projets artistiques. Voilà. Et elle est certes singulière, particulière, mais j'ai envie de dire qu'elle, pour moi, elle serait exemplaire de toute collaboration artistique avec voilà, un compositeur ou un metteur en scène, ou un, enfin, etc., ou un chorégraphe. Et je pense que, d'ailleurs, c'est... un endroit que j'idéalise effectivement cette complicité, dans le sens où l'interprète est finalement pas si souvent que ça, en tout cas dans la musique classique, placé à l'endroit de la personne qui en même temps crée son projet artistique. Enfin, quand même, les interprètes sont souvent un petit peu prestataires là aussi d'un système de diffusion et de production qui n'est pas celui d'un metteur en scène, d'un chorégraphe, qui lui peut tout à fait assumer le fait de dire qu'il construit une œuvre. Voilà. L'interprète musicien, pas trop. Voilà. J'avoue que cet endroit pourtant m'attire depuis que je suis enfant, donc j'ai l'impression qu'avec les différents Cris de Paris, je suis en train de trouver cette place que peut-être le...
de l'interprète créateur.
Ouais. Où finalement, aujourd'hui, je vois beaucoup de sens entre un projet que j'ai fait il y a 6 ans et ce que je ferai dans 2. Enfin, pour moi, il y a un fil rouge. Voilà. C'est quelque chose qui m'importe beaucoup aujourd'hui. Je crois que j'ai besoin de trouver un apaisement par rapport à la place qu'on peut occuper dans la société qui me plaît pas du tout, en fait. Le fait d'être obligé de glisser son projet artistique dans un cadre déjà existant, je trouve que les musiciens, ils ont pas beaucoup de chance par rapport au théâtre, à la danse, évidemment aux arts plastiques, à la performance en général.
Thank you.
Est-ce qu'il manquerait par exemple une sorte, à l'image de ces centres nationaux dramaturgiques ou chorégraphiques, un centre national de la pratique justement chorale? En même temps, vous dites que vous supportez pas la musique chorale. Il y a une sorte de hiatus.
Non, j'ai pas dit que je supportais pas. Non, ce que je pense, c'est que c'est dangereux de trop compartimenter. Après, ça dépend à quel endroit. C'est-à-dire que je pense qu'à l'endroit d'une fondation comme la Fondation Bettencourt qui aide le chant choral, Dieu merci, elle le fait précisément à cet endroit-là. Mais par contre, dire qu'un musicien est un spécialiste du chant choral, enfin moi j'en pâtis tous les jours. C'est ah bon, mais qui va diriger l'orchestre? Ou ah la musique chorale, c'est des trucs religieux. Enfin bon, vous voyez, enfin spécialiser le chant choral dans les pratiques, c'est pas moi ce qui m'intéresse. Bon. Parce que c'est ce que je connais mieux, c'est la voix en général. Je pense que, pour revenir à votre question, oui, c'est certain qu'il manque des endroits de musique pilotés par des musiciens. Voilà. Et que si cela devait se faire, alors je serais ravi d'imaginer un projet plus spécifiquement lié à la voix de ce type. Voilà. Mais je pense qu'en général, il faut qu'il y ait des musiciens qui s'y collent, parce que je sais que ça prend du temps, je sais que pendant ce temps on n'est pas en répétition et on travaille pas ses partitions, mais je pense qu'il faut absolument proposer aux générations futures, mais enfin déjà la nôtre, un accès à la musique au sens propre comme au sens figuré qui arrête d'être bifrontal. Moi, je m'intéresse beaucoup au Centre de création musicale. Bon, c'est un label qui, de toute façon, faut pas rêver, ne va pas s'étendre à d'autres structures, mais aussi au Centre culturel de rencontre. Je crois qu'il y a quelque chose à inventer à cet endroit-là. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est la fabrique. Mais attention, pas la fabrique, genre, vous avez carte blanche, vous êtes 2 ans en résidence, faites ce que vous voulez. C'est la fabrique à tous les endroits. C'est notamment la fabrique d'un projet artistique dans lequel on pense en même temps la médiation. Le lien avec les publics, enfin, c'est évident. C'est-à-dire on ne déconnecte pas un projet de son adresse au public, de sorte à ce qu'on ne se retrouve pas, nous, musiciens intermittents, à devenir des pédagogues qu'on n'est pas, ou à faire des projets un peu d'animation en périphérie de ce qu'on a inventé devant nos partitions. Donc voilà, ça, je pense que c'est quelque chose qui me motive beaucoup, et la formation de compositeurs par rapport à la voix. Plein de grands compositeurs très brillants, on va dire ça au passé, ne se sont pas attaqués à la voix précisément parce qu'ils n'avaient pas pu se mettre en contact avec autre chose que ce que Berlioz appelait un instrument précieux qu'on range dans son étui une fois qu'on l'a utilisé, c'est-à-dire la voix lyrique. Mais en fait, à part la voix lyrique, les compositeurs ne sont pas en lien avec la voix. Donc en gros, aujourd'hui, même l'opéra le plus audacieux, il fait quand même appel à un chant très conventionnel, très traditionnel et très connoté. Ce qui fait aussi que, de ce fait, beaucoup de gens ne s'attaquent pas à la voix, aussi à cause de ça, parce qu'ils ont trop peur d'être tout à coup englués dans la tradition.
Parle-moi, mon amour, dis-moi les mots que tu
les cris de Paris, le fait de commander des œuvres, d'avoir ces rapports aux compositeurs, c'était une nécessité aussi, Geoffroy Jourdain, de faire fleurir ce répertoire.
Oui, tout en faisant fleurir notre imagination. Donc, c'est-à-dire, je pense vraiment que c'est quand même au contact d'un compositeur qu'on arrive à appréhender un petit quelque chose qu'il a bien fallu à un moment donné mettre par écrit, mais qui en fait n'est pas né dans la partition, est né d'abord dans la tête de quelqu'un. Et la partition est un aide-mémoire. Enfin, voilà, la question de la notation, la façon dont un compositeur finalement est en lutte avec lui-même pour réussir à mettre sur le papier ce qu'il a dans sa tête, en ce qui me concerne, disons, c'est la musique contemporaine qui m'a fait prendre conscience de ça. C'est-à-dire que la partition n'est qu'un pis-aller, en tout cas pour la musique ancienne. Et c'est terrible parce qu'en fait, la proposition principale qu'on a par rapport à la musique ancienne, c'est de se dire, bon, bah alors, tiens, qu'est-ce que moi je vais faire par rapport à cette œuvre? Mais en fait, c'est que s'incarne le geste de la création de la part de quelqu'un qui, lui, a pensé pendant des heures, les 2 centimètres de notes, ça se trouve, ça correspond à 20 heures. Ça, on a besoin d'être rappelé à ça, je crois, par le contact au compositeur. Je sais pas si c'est très clair.
De faire le chemin inverse, en fait.
Ouais.
En fait, c'est le compositeur, le connaître aujourd'hui, vous permet de partir de lui pour arriver à l'œuvre, alors que partir de l'œuvre pour arriver au compositeur, il y a une déperdition, c'est ça, ou j'ai pas compris?
Je sais pas s'il y a une déperdition, mais en tout cas, il y a quelque chose de beaucoup plus intrusif de la part de l'interprète, et je trouve que l'interprète, il doit pas être à cet endroit-là. Enfin, ce serait un long débat, puis ça dépend en plus de quel répertoire on parle. Enfin, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, on change complètement de sujet, mais cet endroit-là, disons, qu'est-ce que je vais faire de cette musique? Franchement, c'est le bolduc, enfin, c'est la déco, quoi. C'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qui est le plus important, c'est de comment je vais créer une situation de musique avec les gens avec qui je suis, une situation d'écoute, une situation de décision assumée ou pas, mais enfin de trajectoire commune.
Redistribuer l'écoute?
Oui. Ce que je trouve intéressant, c'est de créer une situation d'écoute globale dans laquelle on va être de plus en plus à l'affût les uns des autres, de plus en plus à l'affût de ses propres limites, certaines formes de précision, mais surtout enfin, d'une qualité de son. Ouais.
France Musique, les grands entretiens de Geoffroy Jourdain.
Je suis très attiré par les compositeurs. Enfin, je suis très intéressé, je suis toujours très curieux de comprendre des choses. Et en fait, je m'aperçois que peut-être dans ceux qui m'ont le plus apporté de choses, c'est précisément ceux qui restent mystérieux. Après, concrètement, il y a quand même pas mal de gens avec qui j'ai fait des essais. Ça, c'est plus le cas avec Francesco Filidei. Enfin, je crois que toute expérience avec un compositeur, à partir du moment où il sait précisément ce qu'il veut entendre, va dans ce sens. Et parfois, ça a été avec des jeunes gens en formation. Vous savez, les Cris de Paris ont été résidents pendant 3 ans. Ça a été un moment très, très important de la bascule dans ce que les Cris de Paris sont devenus ensuite. 3 ans en résidence à Royaumont, avec dans le cadre du dispositif Voix Nouvelle. Et c'était encore le temps où Marc Texier était directeur et où il y avait ces fameuses masterclass de Brian Ferneo tous les ans, avec des professeurs invités. D'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré notamment Francesco Filidei. Et parfois, c'est justement la recherche d'un jeune compositeur qui, justement, n'arrive pas nécessairement à mettre des mots sur sa notation, qui m'a fait aussi m'installer dans des questions d'écoute, hein, qui m'ont fait repenser ma position de chef. Voilà. Je pense par exemple à Anna Heimermacher, par exemple, qui sont des gens qui ont un univers personnel où les choses sont très très précises et où, justement, la question de la notation est... Comme je disais, c'est une sténographie qui est un pis-aller. Je pense une très belle rencontre dans ce sens, et pas que pour moi, enfin, je veux dire, vraiment pour les gens des Cris de Paris en général, c'était avec Beat Fourreur, à qui on avait commandé une pièce. Bon, c'est un chef également, et donc sa façon de prendre en main la mise en place de cette œuvre qui s'appelle Enigma nous a amené à un endroit d'écoute assez rare. Voilà. Mais je pourrais en citer plein d'autres. En tout cas, j'étais sensible très très tôt à l'idée de... Et je crois que c'est une des choses qui m'a beaucoup attiré chez les jeunes compositeurs avec qui on commençait à faire des collaborations au début d'Écrit de Paris. Rendre concret quelque chose qui est dans, pas dans l'imaginaire, mais enfin qui est dans la tête de quelqu'un. Enfin, voilà. Grande rencontre pour moi de ces dernières années, tout à fait inattendue et vraiment, enfin, je pense, très très forte, c'est avec Courtag. Ça m'y fait penser parce qu'on parle, bon, évidemment, de compositeur, mais aussi de notation. Et j'ai eu cette chance, en fait, le festival de Milan, Milano Musicale, faisait un portrait Courtag au moment de la création de Fin de Partie, donc c'était il y a 2 ans, et a proposé à Courtag qu'on fasse, on va dire, l'intégrale de son œuvre a cappella, moi, ce dont je rêvais depuis très longtemps. Qui est un peu un Everest, donc qu'on n'entend jamais parce que c'est un peu compliqué à réaliser. Et donc, je ne sais plus comment ça s'est passé, mais en gros, c'était Courtag a dit OK, mais moi, je veux rencontrer la personne qui va le faire. Et donc, je suis allé à Budapest pendant 3 jours. J'ai été reçu là où il vit désormais, enfin, où à l'époque il y avait encore son épouse. Et on a passé 3 jours, enfin, en tout cas, on a fait 3 séances de 3 heures à parler de 25 minutes de musique. Voilà. Et donc, la question de la notation, justement. En plus, a fortiori, chez un maître, enfin, incontesté, enfin, si, il l'aimait. Bon, ça, c'est un autre sujet. En tout cas, quelqu'un dont on peut imaginer qu'il sait exactement ce qu'il veut, surtout avec des œuvres qu'il avait écrites dans les années 70, début des années 80, hein, l'Omaggio à Luigi Nono, et puis le cycle des chœurs sur les poèmes de Tandori. Eh bien, en fait, les 3 jours ont consisté à m'expliquer que il n'avait pas réussi à noter ce qu'il voulait. Alors les hauteurs, oui, bien sûr, mais sur le plan rythmique, surtout sur le plan rythmique et des agogies, enfin des tempi et tout ça, je l'ai enregistré et c'est bien plus fidèle que justement ce que dit la partition, la façon dont il veut qu'on interprète. Voilà, il n'a pas réussi à noter ce qu'il voulait.
J'ai l'impression que là, on peut faire un pont entre le créateur et l'interprète. Est-ce que l'interprète, il y a aussi cette espèce de quête, je pense qu'on n'arrive jamais à interpréter comme on l'entend, en fait. On entend quelque chose, on a envie de le jouer de telle sorte, et j'ai l'impression que, enfin, en tout cas, si un jour on y arrive, peut-être qu'on n'a plus besoin de jouer ensuite, quoi. Je pense que ce qui nous tient et ce qui fait qu'on continue de jouer, c'est qu'on n'arrive pas à atteindre. Donc, je trouve ça émouvant de se dire qu'en fait, le compositeur, il a ce même cheminement aussi, en tout cas, pour Courtag.
Pour lui, ouais. Enfin, je crois que de toute façon, il est toujours insatisfait, mais que ça fait aussi partie, bon, à la fois, bon, de la personne, mais probablement même de sa musique et de sa quête, et donc de son langage.
Mais ça veut dire, excusez-moi, ça veut dire que du coup, il laisse consciemment une part à l'interprète.
Oui, nécessairement. Après, enfin, on sait bien, surtout, a fortiori au XXe, XXIe siècle, qu'il y a des attitudes sur le urtexte, enfin, le urtexte, l'absolu d'interprétation qui façonne même le langage du compositeur. Pour Courtag, je pense que c'est pas une surprise si, de ce fait, les pièces sont très courtes, qu'elles restent souvent comme ça en suspension, que certaines, c'est un peu comme, je sais pas, des plumes, enfin, on sait jamais où elles vont tomber, et qu'il y a quelque chose de domaine de l'incertitude ou de l'insatisfaction personnelle, mais que ça a généré un langage. Et quand c'est le cas dans la poésie, ça nous semble possible. Avec la musique, c'est toujours plus ambigu. Après, c'est pas non plus une surprise que ce qu'il a écrit pour des formations orchestrales, c'est très peu de musique, mais ce soit plus, justement, les pièces les plus assises, parce que je pense qu'il écrit pour la mécanique d'un orchestre. Mais par contre, quand on écrit pour une voix et violon, je crois que c'est le cas des Hölderlin notamment, eh bien, le son du violon, l'archet, le caractère de la personne, évidemment, le timbre de la voix et tout ça vont faire qu'à chaque fois, ce sera différent. Que ces petites pièces très fragiles seront soumises effectivement toujours à une quête. En fait, bon, on peut dire ça de tout. Mais c'est sûr qu'il y a des compositeurs qui sont beaucoup plus conscients de ce qu'ils veulent exactement et même parfois qui disent voilà, c'est ça. Mais peut-être c'est ça avec vous ou c'est ça. Ça dépend aussi comment les choses sont écrites. Parfois on a des musiques qui sont complètement aléatoire. Parfois, il y a des gens qui écrivent précisément pour que ce ne soit jamais pareil, enfin, pour que ce ne corresponde jamais à leur absolu à eux, mais à l'absolu justement des interprètes et à leur capacité. Je dirais qu'on est très libre jusqu'au moment où on a choisi les gens qui vont faire l'équipe. Et après, selon moi, ce serait un idéal, c'est quelque chose dont je prends seulement conscience maintenant, mais en fait, on doit se mettre, je pense, le plus à l'écoute des personnes qui sont là, pour qu'ils trouvent ensemble ce qui sera le plus juste. Et c'est là que la question du tempo, de la question des intentions, enfin pas ces deux-là, mais c'est là que ça va jouer, parce que ce qui va être important, il me semble, prenons cet exemple des madrigaux, une fois que les cinq personnes ont été choisies, petit à petit, il y a quelque chose qui trouve sa place, quoi. À force d'avoir été visité, scruté dans tous ses recoins, finalement, les choses prennent une place, bon, on va dire ça comme ça, une forme en tout cas. Et après, il me semble que le plus important, ça va, je crois, être toujours le rapport qu'il y a entre une espèce d'équilibre entre justesse, qualité du timbre et rythme. Enfin, il y a quelque chose comme ça, des propriétés presque objectives, qui ne le sont pas parce qu'elles dépendent des gens qui sont là et de ce qu'ils font. Mais par exemple, on ne va pas imposer un tempo à un groupe. Je crois qu'il le trouve lui-même, il me semble. Hein. Enfin, on peut peut-être essayer de les déplacer de temps en temps et voir si en les déplaçant, ils ne trouvent pas quelque chose de nouveau. Ça, je pense que c'est le rôle du chef. Mais par contre, de dire « c'est comme ça », ça va dépendre des gens qui sont là. Donc la liberté, elle est jusqu'au moment où le cast est fait. Après, on en a beaucoup moins, mais c'est tout aussi excitant. Enfin, voilà, il me semble que c'est ça, en tout cas, qui m'intéresse de plus en plus. C'est d'essayer de trouver, avec les gens qui sont là, une des vérités de l'œuvre qu'on travaille.
Geoffroy Jourdain à la tête des Crit Paris dans ce Merce Grido Piangendo de Gesualdo, pour refermer le quatrième épisode des Grands Entretiens avec le chef de l'ensemble. Réalisation Christine Amado, prise de son Loïc Duros, mixage Cédric Chatelus, attaché de production Flora Sternadel. Suite et fin de ce portrait demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. À réécouter sur francemusique.fr.